Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio FM Plus sur le réseau 91 Montpellier 103.1 Nîmes et c'est De Visu, le magazine sur l'actualité des arts visuels et de la performance en région, un magazine proposé par Lise Hoth. J'accueille aujourd'hui Annie Gabrielli, directrice de la galerie qui porte son nom, Avenue de Nîmes, à l'occasion d'une exposition intitulée « Sortir du cercle des coquillages », une exposition de Shannon Guéricault, et nous allons évidemment parler de photographie. Bien, alors nous démarrons ce nouveau De Visu dont je dirige pour la troisième année les destinées. La spéciale photo dont j'ai imaginé la thématique est motivée évidemment par l'invitation que je vous ai lancée. Annie Gabrielli, bonjour.
Bonjour Chris.
Voilà, je profite pour dire que votre galerie se trouve très précisément 33 avenue François Delmas. On connaît peu cet intitulé puisque c'est l'ancienne route de Nîmes. Et donc c'est l'actualité qui motive donc cette invitation, l'actualité photographique dont vous êtes porteur. Et puis aussi, je vous ai invité pour que nous puissions parler de l'actualité photo à Montpellier qui est relativement conséquente. Mais avant d'en rentrer donc dans le vif de ces sujets, je voulais rappeler que votre galerie est ouverte depuis 2011. Oui. Et vous demandez, ce sera ma première question, quelles ont été vos motivations lors de l'ouverture de cette galerie?
Alors, les motivations de l'ouverture de la galerie ont été portées par des annonces faites à l'époque où Michael Delafosse était adjoint à la culture à la mairie de Montpellier, où on parlait d'essor de la photographie à Montpellier. Il y avait déjà le pavillon populaire qui existait, qui a été ensuite prêté, entre guillemets, aux boutographies, au festival Rencontre Photographique de Montpellier.
Tout à fait.
Et j'avais envie d'insérer un petit peu ce cercle et de participer aussi à l'essor de la photographie.
Bien. Quel genre de photos vous pensiez défendre à ce moment-là? Parce qu'il y a peut-être quand même aussi un état d'esprit particulier.
Alors, il y a un état d'esprit particulier. Je ne dirais pas que j'avais envie de défendre quelque chose vraiment, mais j'avais envie de ne pas montrer un genre de photographie qui avait déjà été montré un peu partout, qu'on connaissait déjà. Donc si on veut dire défendre une photographie, je dirais plutôt photographie contemporaine.
Oui, on verra par la suite ce que ça peut signifier.
Voilà,
oui, ce que ça peut signifier. Alors oui, je voudrais parler aussi effectivement de ce qu'il en est de l'ancrage d'une galerie photo dans une ville et aborder donc ce thème de la photographie, de son rayonnement auprès du public, en rappelant donc des détails qui sont pas toujours très heureux, puisqu'aux rencontres d'Arles cette année, il y a eu une baisse de fréquentation de 12,5%. Les organisateurs de ces rencontres accusent évidemment les turbulences que subissent les rencontres depuis quelque temps à Arles, s'agissant donc de la direction même de ce festival photo, et puis aussi donc les revendications des intermittents. Et ceci donc pour vous poser cette question: est-ce difficile d'avoir une galerie photo à Montpellier? Est-ce que vous avez du monde? Est-ce que ce rayonnement public vous satisfait?
Alors, je suis très contente d'avoir ma galerie photo à Montpellier. J'arrive à avoir un public fidèle et de plus en plus nombreux, mais c'est extrêmement difficile de se lancer dans cette activité. La photographie n'est pas encore, je dirais, à égalité avec la peinture dans l'esprit de la majorité des gens.
Oui, c'est et en même temps, alors vous, voilà, vous allez sur mes brisés, pour ainsi dire, puisque depuis le 2 octobre, eh bien, la maison de vente aux enchères Arcurial vient d'ouvrir ses portes, vient d'ouvrir une antenne, plus exactement, à Montpellier, pour attirer peut-être les gens du côté de la photo. Vous voudrez peut-être parler de son prix.
Le prix de la photographie, ça a été un des marchés pendant un moment les moins chers, mais par contre la photographie a c'est modifié le marché, dans le marché de l'art. Le marché se fait surtout dans les grands salons, en fait, dans les foires d'art contemporain, et pas tellement, plus tellement dans les galeries actuellement. Ce qui est d'autant plus compliqué. Donc, il faut essayer de participer le plus possible à des salons pour arriver à faire reconnaître des artistes, en fait.
Oui, voilà, ça c'est un petit peu...
Je suis un petit maillon de la chaîne.
La conjoncture dans laquelle vous vous trouvez, néanmoins quand même, il faut bien voir que certaines photographies peuvent atteindre des prix quand même assez vertigineux. Je lisais récemment sur le site d'Arcurial qu'une photo de Mapplethorpe peut atteindre quand même le prix de 33 800 €. Oui. Hein, bon, c'est bien inférieur à ce que coûte une peinture, qui peut, comme c'est le cas pour Soulages, atteindre les 2 millions d'euros. Oui. Hein, mais bon, quand même, il y a une cote... qui est maintenant suivi, soutenu, etc. Les photographies que vous mettez, que vous accrochez au CIMES de votre galerie, ils se trouvent dans une fourchette de quel prix à peu près ?
Alors ça peut aller de 300 euros, qui est très modeste, à 10 000 ou 15 000.
Suivant
l'artiste.
Le tirage, peut-être.
Le tirage, le nombre d'exemplaires, enfin, des exemplaires numérotés, donc ça joue.
Ça joue évidemment la qualité, la préciosité de l'œuvre. Bien, on fera peut-être une émission précise sur ce sujet un jour avec plusieurs intervenants. Je voulais en venir maintenant avec vous du côté de l'actualité photo. Bon, on peut dire que quand même, à Montpellier, dans le domaine de la photo, plusieurs orientations sont défendues, puisqu'on peut à l'heure actuelle voir ce qu'il en est à côté de l'exposition que vous présentez, bien sûr, de la photographie plasticienne, avec l'exposition de Patrick Tossani, Changement d'État, qui se tient en ce moment au Pavillon Populaire. On peut avoir aussi une autre entrée en photographie, qui est peut-être l'entrée la plus répandue, la plus communément accessible. C'est l'exposition commémorative. Actuellement, le Pierre Vive, donc 907 avenue de Blagnac à Montpellier, présente Terre d'enfance à l'occasion du 25e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant adopté par les Nations Unies. Et là, on a notamment des photos de Pierre Jeanret associées à diverses installations et divers objets en rapport avec le thème. Et puis ensuite, on a aussi l'entrée de l'exposition thématique. Alors celle-ci est un peu plus confidentielle et je veux parler donc de l'exposition de Marc Gaillet qui est actuellement accrochée à la médiathèque Jean-Jacques Rousseau. Et là, on a toute une série de photographies sur le thème du corps, thème d'ailleurs qui est aussi suivi par Cathy Coupry, auteure d'un dictionnaire fou du corps, hein, et dont les deux artistes partagent la même attention sur le corps en mouvement, en posture, en chair et en os, et les créations, mais l'audace, sérieux humour, nous dit-on, hein, ceci visible jusqu'au 25 octobre. Alors si on regarde maintenant du côté de l'actualité internationale, hein, dans l'actualité internationale, eh bien on voit surtout dominer ce qu'on appelle l'exposition patrimoniale, et donc je voulais en venir avec vous à l'exposition qui a lieu à l'heure actuelle à Toulouse au Château d'Eau, galerie bien connue qui fête ses 40 ans d'existence, avec donc une exposition intitulée Une amitié heureuse, avec des œuvres donc photographiques de Jean Dieuzède et Robert Doisneau, pour vous amener sur cette question. Cette exposition évidemment présente donc une exhumation de fonds d'archives. Est-ce que vous-même vous avez vos propres archives photos? Est-ce que vous avez une collection personnelle? Est-ce que vous constituez un fonds personnel de photographie?
Alors, je ne suis pas partie pour fonder vraiment un fonds, mais j'ai quand même ma propre collection. Quand on parle de collection patrimoniale, je vais avoir dévié un petit peu vers la photographie japonaise, puisque j'ai des photos du 19e siècle japonais. Sinon, c'est tout des photographies d'art contemporain.
Mais et donc, vous constituez un fonds?
Ce sont des coups de cœur que j'ai eus pour des artistes, que par la suite j'ai même exposé, et je constitue un fonds, si on peut pas appeler ça
comme
ça.
Oui, mais je pense qu'il faut l'appeler comme ça. C'est pas parce que vous êtes une galerie photo que vous n'avez pas un fonds.
Je peux avoir un fonds par rapport à la galerie, mais j'ai ma collection personnelle.
Celle que vous choyez.
Celle que je choie, oui.
Que vous entourez de tous vos soins.
Qui ne bougera pas. Enfin, qui évoluera, mais je ne me débarrasserai pas des photographies que j'ai depuis plusieurs années. Voilà.
Bien, bien. Alors, autre aspect que un regard sur les expositions françaises peuvent permettre de souligner, c'est la photographie et les femmes. Je crois que les femmes se sont emparées de ce médium assez rapidement. Deux expositions sont en cours à l'heure actuelle. L'une à la galerie La Box à Bourges, qui s'intitule Les corps du tissu, et dans laquelle les œuvres présentées, je lis la note d'intention, se trament sur une existence imaginaire du tissu portée ou manipulée par le corps. On sait que le rapport des artistes femmes avec le tissu est important. Et puis d'autre part, une exposition qui a lieu à Lyon, à la galerie Le Bleu du Ciel, intitulée « Humaine, trop humaine », avec donc deux artistes d'origine russe, Alexandra Demankova et Dana Popa. Vous-même donc, Annie Gabrielli, sur les 13 artistes que vous soutenez, je regardais donc, je jetais un œil sur le site de votre galerie, 7 sont des femmes. Il y a eu un désir véritable de défendre des artistes femmes en photo?
C'est pas vraiment un désir, il n'y a pas une question de parité non plus, mais je pense que malgré tout, actuellement, il y a beaucoup de femmes dans le milieu de l'art et qu'elles ne sont pas assez exposées. Donc j'ai préféré, peut-être inconsciemment, choisir des artistes femmes, et notamment Mami Kiyoshi, qui
est
japonaise. Et donc c'est un petit peu extraordinaire, je trouve qu'elle est en train de faire un peu le même parcours que Geneviève Haas, qui a eu tant de difficultés en tant que femme à être reconnue. Mami Kiyoshi, en tant que photographe plasticienne, rencontre les mêmes difficultés dans son pays. Donc j'ai eu aussi cette envie d'aider des femmes à pouvoir exposer en galerie.
Oui, je notais du reste que certaines d'entre elles sont même féministes, hein, quand même.
Oui.
On se souvient, enfin je me souviens de l'accrochage des photographies de Corinne Mario qui décomposait la représentation féminine telle qu'elle est donnée par les grands médias, aussi bien magazines que télévisuels. Vous défendez aussi des travaux très exigeants, comme celui de Soraya Hossin.
Oui, travail très compliqué aussi. Et pour Corinne Mario, c'était vraiment un travail sur l'identité de la femme qui était vraiment très, très, très intéressant. Et on basculait dans un travail qui était au-delà de l'humour. C'était un travail vraiment qui pourrait être littéraire même. Voilà.
Oui.
Je sais pas si je m'exprime bien.
Si, il y avait une déconstruction des stéréotypes féminins tels que la littérature les a véhiculés, a contribué à les véhiculer. C'est certain, oui. Quant au travail de Soraya, elle a travaillé dans un hôpital psychiatrique, celui de Saint-Alban sur Limagnol en Lozère, et dont la complexité provient de ce rapport qu'elle induit à une image qui n'est pas simplement une représentation de la réalité, mais aussi une représentation de réminiscence. Hein.
Elle est allée au-delà du documentaire, en fait. C'est pareil, il y a aussi un travail littéraire. Je suis très attirée par les travaux des artistes, des travaux littéraires aussi, comme Shannon Guérico, son premier travail aussi était très littéraire, le deuxième aussi.
Et on va en parler d'ailleurs. Bien.
We got up early, washed our faces, walked the fields, put up crosses, passed through the damn mountains, went hellwards. Some of us returned, some of us did not.
Thank you.
Bien, alors toujours de visu continue, deuxième partie de l'émission que j'ai intitulée De visu hors les murs, celle au cours de laquelle on va écouter un entretien d'un artiste réalisé dans le contexte même de son exposition. Nous venons d'écouter donc un extrait d'un morceau de PJ Harvey intitulé In the Dark Places. C'est un morceau que vous avez choisi, Annie Gabrielli, oui, pour évoquer donc Shannon Guérico, dont vous exposez pour la troisième fois les travaux, sous l'intitulé donc Sortir du cercle des coquillages. Il y a dans ce travail, dans le background, on va dire, dans tout ce qui environne, je dirais, l'imaginaire de Shannon, un côté très culture rock.
Oui.
Hein, qui est celui d'une génération à laquelle elle appartient, et dont on rend compte d'ailleurs le portrait qui est placé, le portrait photographique qui est placé à l'extérieur de la galerie et qui est un portrait de Jim Morrison. Alors, est-ce qu'on peut situer la génération à laquelle appartient Shannon en donnant son âge?
Shannon a une trentaine d'années, 31 ans exactement. Et elle était en admiration, parce que c'est à l'âge de l'adolescence, elle était en admiration pour Jim Morrison, et les Doors, donc. Et le choix de PJ Harvey, je pense, a été fait parce qu'elle écoutait PJ Harvey pendant...
L'exposition Libre et Sauvage, je crois,
oui,
non?
Oui, pendant Libre et Sauvage. Et donc, cette exposition-là a été montée grâce à la musique, puisqu'elle écoutait cette musique pendant le montage de l'exposition.
Donc le timing rock est important pour elle.
Voilà. Et il y a un lien quand même avec les Doors, puisque PJ Harvey a été influencé par les Doors. Et donc avec cet engagement contre la guerre dans les paroles de la chanson. Et elle rejoint un petit peu Jim Morrison pendant la guerre au Vietnam. Bon, je ne suis pas une experte en musique, mais enfin, j'ai quand même quelques souvenirs.
Que tout ça s'est situé.
Voilà,
oui.
Donc c'est quelque chose qui l'a marqué et qu'elle a mis aussi dans son exposition avec le linceul de Jim Morrison dans la vitrine de la galerie, où elle a fait une espèce de nouvelle tombe à Jim Morrison avec des cactus.
Oui, qui sont là, en offrande, oui, à cette idole de l'époque, donc, de la fin des années 60, qui est une époque aussi de revendication contre la guerre du Vietnam, oui, pour compléter ce que vous disiez. Oui, donc, vous citiez PJ Harvey pour le mettre en relation avec l'exposition Libre et Sauvage, qui était la deuxième exposition consacrée à cet artiste, donc en 2013. Elle avait été précédée d'une autre intitulée Whispers, oui, Murmure en 2012. Donc on peut dire que c'est une artiste que vous suivez beaucoup, puisqu'elle a finalement une expo qui lui est consacrée chaque année. Quelles ont été les circonstances de la rencontre avec elle? Comment l'avez-vous connue?
Alors je l'ai connue parce que je connaissais déjà l'école de Vevey, puisque elle a fait l'école de Vevey en Suisse,
oui,
de photographie. Donc je connaissais déjà pas mal d'artistes qui venaient de cette école-là. Et j'ai examiné plusieurs travaux d'élèves de l'école de Vevey. Et donc j'ai eu ce contact grâce à ce que j'avais vu sur le site de l'école. Et je l'ai contactée, j'ai vu ses travaux, je suis allée la voir en Suisse. Ensuite elle est revenue me voir à Montpellier, on a décidé d'une exposition.
Oui, on sent qu'il y a un lien étroit entre vous pour la continuité de ce travail. Je voudrais en venir donc sur le caractère particulier de cette dernière expo, qui n'est pas seulement, comme les précédentes, constituée de photographies, mais aussi elle est associée à des papiers peints qui font un petit peu tapisserie, on va dire, et aussi à des objets en trois dimensions, ce qui lui confère la dimension d'une installation. Hein, et cela pour conséquence d'une participation plus engagée de la part du spectateur. Je rappelle quelles étaient les intentions de Shannon Guérico pour cette exposition intitulée Sortir du cercle des coquillages. Elle dit ceci: j'ai commencé un travail qui prend appui sur les notions de mystique, de fétiche et de surnaturel au sens large. Elle évoque aussi dans cette note d'intention les deux origines qui caractérise son identité, sa mère irlandaise et son père argentin. On écoute tout de suite, avant de réagir sur ce qu'elle dit, un entretien recomposé à partir de celui qu'elle m'a donné le jeudi 25 septembre à la galerie.
J'ai grandi en fait avec à la fois la superstition et à la fois une croyance très fervente dans le catholicisme, je dirais. Donc finalement, en tant qu'artiste, je crois que je me suis un peu distancée de tout ça. Et finalement, cette exposition, bah, ça parle d'une religion bricolée qui pourrait être réelle ou pas. Finalement, la chose, c'est que moi, je me suis perdue dans ça.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, chacun a sa perception, évidemment, du lien que l'on peut avoir à des origines religieuses, un enseignement religieux, et, a fortiori, à la religion catholique. Chez vous, il y a plutôt quelque chose qui relève du mysticisme autour de cette religion. Et en particulier, il y a une anecdote dont vous parlez aussi dans votre note d'intention, au sujet, donc, de Maradona. Hein, alors, racontez-nous cette histoire, parce que je pense que ça montre aussi une certaine façon d'établir ce lien et finalement de lever les notions de mystique dont vous parlez.
Bah, il est arrivé pendant cette fameuse Coupe du Monde où il y a eu la Mano de Dios, je crois, 86, sauf erreur. Bah, j'ai grandi avec une dame argentine qui me gardait et durant un match... c'est vrai qu'elle m'a donné un chapelet et qu'elle m'a dit maintenant il faut que tu pries pour la Vierge pour qu'elle donne les jambes à Maradona. C'est une traduction littérale, donc c'est un peu bizarre. Mais donc voilà, donc je me suis agenouillée devant la télévision avec un chapelet à la main et j'ai récité je ne sais combien d'Ave Maria. Et voilà, c'est vrai qu'après, c'est une anecdote qui me fait rire aujourd'hui parce que ben voilà, en tant qu'adulte, on ne sait plus si c'est la Vierge ou la drogue. Et j'ai dû passer 3 mois en République dominicaine par la force des choses. Et puis, il y a aussi une esthétique de ce que j'ai pu voir là-bas, en fait, qui est aussi représentée ici, d'une manière très, je dirais, occidentale. Parce que c'est vrai qu'en 3 mois, on effleure une culture, même si j'ai vécu vraiment là-bas. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a aussi des éléments, je pense, visuels qui ont été un peu ramenés, remélangés, réappropriés. C'est vrai qu'il y a une histoire de colonialisme en filigrane, je dirais, mais voilà, les Argentins sont tous des colons.
Alors, il nous manquait des figures tutélaires, parce que il n'y a pas de. Pour l'instant, on est allé dans l'enfoui, j'ai l'impression, hein, dans l'enfoui, le caché qui refait surface, aussi bien du côté de l'enfance que du rapport à l'adolescence, que du rapport à une certaine jeunesse de soi, mm-hmm. hein, jusque-là. Et maintenant, on a les figures. Alors, les figures, on a la figure du père, moi je trouve, on a la figure de la sorcière. Hein, qui sont d'ailleurs des représentations produites d'un côté par une photographie qui est assez noir et blanc, très expressive, très un côté inquiétant. Et puis en face, donc, une autre photographie, celle du père-enfant, hein, lui-même à côté d'un gros plan sur quelque chose qui rappelle une momie, hein, et donc les deux se font face. Alors ça, c'est intéressant parce que tout d'un coup, on a comme ben oui, quelque chose qui équilibre tout l'ensemble là ici et qui est un peu l'élément, la ligne de partage.
Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait, c'est exactement ça. Ben, c'était finalement dans une idée d'opposer deux forces. Enfin, je dirais, il y a une sorcière et puis il y a cet enfant qui se trouve être mon père qui essaye de
il est là avec
de
un
trouver
petit,
des
petite
moyens
brouette,
voilà
hein,
avec une
de,
petite brouette comme si c'était le jardinier finalement le gardien de ses grands papiers peints et puis que cette sorcière était très menaçante juste de l'autre côté de la forêt. Donc il y a finalement cette idée de je dirais ouais de force qui s'oppose comme des idées peuvent finalement s'opposer tout ce qui a à voir avec le religieux aussi. Par le passé j'étais amenée à faire une exposition suite à une commande dans laquelle j'avais carte blanche. Donc j'ai produit ma série et puis c'est vrai que quand on en est arrivé à l'accrochage, j'ai fait une sorte d'accrochage en nuage et puis j'étais pas satisfaite, bref, de cet accrochage. Je suis retournée, j'étais toujours pas satisfaite. Donc c'est vrai que je me suis finalement confrontée aux limites, je pense, de mon médium vraiment et c'est vraiment quelque chose que c'était quelque chose qui était de l'ordre du grave en fait pour moi vraiment parce que t'allais dire qu'à la base je suis photographe et que si je suis confrontée déjà si jeune à des limites comme ça c'était quelque chose qui était pour moi très important et j'ai réfléchi à comment finalement continuer à utiliser mon médium et pouvoir trouver un terrain où je me sens plus à l'aise et où je trouve finalement mon travail moins ennuyeux pour parler très franchement.
Oui, parce que sortir du cercle des coquillages, c'est une formule que vous avez empruntée à un ouvrage qui s'intitule « Le livre des conjurations et sortilèges », un livre paru en 64 aux éditions Robert Morel, qui se trouve être en provençal,
ah, voilà. Hein,
qui a fait les choses du côté de Fort-Calquier, où on sait qu'il y a beaucoup d'esprits dans les montagnes, Giono en a parlé. Bref, donc effectivement, oui, il fallait sortir, il fallait se désembourber,
voilà,
d'un certain rapport au travail.
Exactement, et pour moi, les papiers peints ont été, je dirais, un premier pas vers ça, qui par la suite m'ont peut-être, et avec le petit coup de pouce des gens qu'il fallait, m'ont donné aussi le courage par la suite de montrer des objets.
Oui, alors on écoutait tout de suite Shannon Guérico dans le cadre donc de Deux visures les murs. Donc je suis avec Annie Gabrielli qui expose donc pour la troisième fois les travaux photographiques de cette jeune artiste. Dans l'entretien que nous venons d'écouter, Shannon souligne effectivement le rapport qu'il y a entre les œuvres qu'elle présente, qui sont donc aussi bien des photographies que du papier peint, que des objets en trois dimensions, avec donc une problématique qui tourne autour de la question de la filiation. Elle y évoque dans le rapport à son père, mais aussi indirectement à sa mère, et enfin donc le rapport à l'enfance, à des peurs, à des angoisses qui ont constitué tout un monde parallèle dans son imaginaire qui est en train de se construire, rapport enfin à l'adolescence, là où s'élève le désir, dit-elle, d'ouvrir plus largement les portes de la perception. Alors la question que j'avais, la première question que j'avais envie de vous poser, Annie Gabrielli, était la suivante. Est-ce qu'on peut dire que depuis Whispers, titre donc de la première exposition en 2012 que vous lui avez consacré, en passant donc par Libré Sauvage et aujourd'hui par Sortir du cercle des coquillages, c'est ce cheminement sur la question de la filiation qui caractérise pour une grande part le travail de Shannon Guérico?
Effectivement, le lien, la filiation, sauf que dans Whisper, c'était caché, c'était chuchoté, je dirais, puisqu'elle essayait de nous montrer que le temps passait, qu'il fuyait, mais elle ne parlait pas du tout de sa filiation et on rentrait dans ses images sans rentrer vraiment dans son intimité. Et je pense que d'en sortir du cercle des coquillages, même si elle ne l'affirme pas franchement, on rentre dans quelque chose de très personnel.
Oui, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le voile se lève petit à petit sur les choses enfouies, cachées.
Et je pense que c'est pour ça qu'elle a réussi à sortir du cercle des coquillages.
Oui, le titre est à interroger sur plusieurs significations, oui. Surtout le millefeuille de sens qu'il transporte, et aussi sur cette ouverture à un courant qui a été très intéressé par la photographie, qui est le surréalisme. Hein. Okay. Il s'agit, bien sûr, pour Shannon, il ne s'agit pas de s'inscrire dans la continuité donc des travaux surréalistes réalisés en photographie par des gens comme Man Ray. Hein, il ne s'agit pas de produire des sortes de cadavres exquis, hein, mais plutôt de procéder par association d'idées, hein, en établissant un lien entre un objet trouvé, par exemple une pierre, hein, une petite pierre dans la forêt, de l'installer dans un contexte particulier, hein, sur un petit gazon, comme c'est le cas, hein, sur un socle entouré, environné d'un petit gazon synthétique, et du coup de lui conférer une dimension qui l'attire du côté de la filiation maternelle, hein, de son rapport à la mère. Donc on voit bien qu'on procède par association d'idées.
Mais c'est quand même différent du surréalisme où il était question aussi de faire un genre de désapprentissage. Shannon, elle n'est pas allée jusque... Enfin, elle n'est pas au désapprentissage. C'est une notion un peu différente quand même.
Qu'est-ce que vous entendez par désapprentissage?
C'est-à-dire... Il y a eu une notion avec l'art vaudou, avec les Haïtiens, pendant cette période de surréalisme, où il a fallu entrer dans une nouvelle culture et évacuer tout ce qu'on avait derrière,
ce que j'appellerais... Comme référent,
référent, c'est ce que j'appellerais le désapprentissage, à la limite. Et Shannon Guérico, elle n'est pas vraiment dans le désapprentissage, elle suit toute une évolution. Je trouve qu'elle a acquis une maturité, puisque ce n'est que sa troisième exposition, et je pense que tout le surréalisme la nourrit également, mais elle n'a pas voulu faire une étude sur l'art africain ou sur le vaudou, mais elle a voulu s'inspirer aussi des surréalistes et de toute cette partie-là.
Ça, oui, ça, elle se réapproprie, elle en se tout réapproprie cas, ça, des méthodes. Oui. Hein, elle se réapproprie la méthode de surréaliste qui est celle véhiculée par l'association d'idées, mais elle ne reprend pas à son compte tout le contexte anthropologique qui l'accompagnait, hein, dont vous parliez là à propos du vaudou. Et en fait, c'est plutôt une question très personnelle, qui est dans sa visée première, dans son objectif, c'est finalement élucider ce qu'il en est de la filiation et l'élucider là aussi à côté du discours tenu par la sociologie, hein, discours qui donc stipule que la filiation est en lien avec la question de la parentalité, hein, mm-hmm. c'est-à-dire le lien avec la généalogie, le lien avec les parents. Elle va plutôt l'explorer du côté de ce qui est dans l'inconscient, dans l'imaginaire. Qu'est-ce qui a fait que dans la filiation il y a aussi des apports d'imaginaire qui vont permettre de constituer la spécificité d'un héritage.
Et de
fabriquer sa propre mythologie, tout à fait. Merci Annie Brielli.
Next weekend we'll be back to something near a normal. Not quite so cold. The bad news is that we've had a fall of fresh snow in this southeastern quarter through the night time. And that's blowing around in these quite strong winds too. Now the weather map hasn't changed a great deal over this last week. This wave of cloud, wave of cloud, but I don't think it's going to move any further northwards now.
There's a slow moving depression at the bottom of my heart. There's a lack of any action in my love life or my art. There's no way that I can shift them. Dark clouds follow me like pets. When I drag myself to parties, I just bump, bump into regrets. Life goes on, the wheel goes round, winners lose.
Bien, alors troisième partie de Visu, toujours en compagnie d'Annie Gabrielli. On va parler donc de changement d'état, titre de l'exposition actuellement consacrée à Patrick Tosani, avec ce petit clin d'œil musical qui précède nos conversations, clin d'œil musical lancé par Lucie et le professeur Inlassable, et ce morceau intitulé Weather Report, qui est un morceau s'amusant autour de la manière de dénoncer la météo et auquel nous renvoie peut-être changement d'état, bien que ce ne soit pas des changements d'état climatiques auxquels nous renvoie Patrick Tosani, hein, pas du tout. Donc c'était simplement un petit clin d'œil. Alors on va donc parler plus précisément de ce qu'il en est de la photographie plasticienne. Vous disiez tout à l'heure, Annie Gabrielli, que la photographie que vous aimez défendre relève de ce courant. Donc quelques petites précisions sur ce mouvement, puisque c'est un mouvement que l'on a vu se dessiner dans le courant des années 60, hein, déjà. J'en veux pour preuve les analyses produites par un spécialiste de la question, qui est Michel Poivert. Michel Poivert a publié un livre en 2002 aux éditions Flammarion intitulé « La photographie contemporaine ». Voici ce qu'il dit de la photographie plasticienne. Ça nous servira de base pour notre échange. Alors depuis le pop art, note-t-il, les artistes ont de plus en plus fait appel à l'image photographique. Appropriation, expérimentation, documents d'archives ou bien, à l'inverse, instruments de fiction. Poivert souligne du reste les relations privilégiées qu'il y a eu entre photographie et art conceptuel, relations qu'il juge du reste paradoxales, car l'art conceptuel était, au moment de sa naissance dans les années 60, un mouvement en lutte contre la primauté du visuel. Qu'est-ce que c'est que la primauté du visuel? Eh bien, c'est dire que la photographie donne une représentation du réel qui est une représentation véridique, hein. Par ailleurs, la primauté du visuel, eh bien, ça serait aussi ce qui se réfère à ce que Freud appelait la pulsion scopique, c'est-à-dire ce qui active notre envie de voir, hein, donc les conceptuels étaient donc en lutte contre ces deux aspects qui entourent la naissance de la photographie. Et en plus il rajoute, en fait, la photographie révèle ce que beaucoup d'artistes cherchaient dans la critique de l'orthodoxie moderniste, ils souhaitaient établir une nouvelle lecture de l'image. Enfin, rajoute-t-il, le document photographique ainsi sollicité a donc pour but de nier les notions de goût artistique dominant et non pas de se considérer comme une forme avancée d'une pratique photographique, c'est-à-dire qu'une photographie dans l'esprit de la photographie plasticienne n'est pas un document dans lequel le visiteur va pouvoir vérifier les connaissances technologiques de celui qui la pratique. Alors, grosso modo, ce que dit Poivert, c'est quand même aussi de dire que la critique que ce que soulève la photographie plasticienne, c'est une critique du goût. Hein? Alors, comme toute exposition est aussi une question de goût, qu'est-ce qu'on peut dire du ressenti, ou est-ce qu'on peut dire quelque chose du ressenti qui émane de l'exposition donc de Patrick Tossani, actuellement visible au Pavillon Populaire?
Déjà, on peut dire aussi que qu'il se sert de ce médium photographique comme une expérimentation pour arriver à la... En parlant encore de la photographie plasticienne, et c'est ça aussi qui fait la différence. Il n'est pas dans une vraie représentation du réel. Et je pense que ce qu'il en ressort, c'est qu'on est complètement déstabilisé devant cette exposition-là. Car il y a des rapports d'échelle complètement inversés. Bon, ça, on pourra peut-être
en parler. On va en parler, dans le détail. Oui, bien sûr.
Donc, on est un peu bousculé par tout ça, parce que dans la photographie, on n'a pas du tout ce rapport-là dans la photographie, je dirais, qui n'est pas plasticienne, on va dire ça.
Oui, oui.
Et il n'utilise pas. Quand je parle des rapports inversés, il a peut-être commencé par des choses très petites, pour arriver même à des formats énormes.
Au niveau du tirage.
Et on est complètement perdu dans toutes ces photos.
Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est à la fois donc le reflet des expérimentations qui sont réalisées dans l'atelier, et par ailleurs, toutes ces expérimentations sur les rapports d'échelle que vous signalez ont pour origine quand même son métier d'architecte. Hein.
Oui, oui, oui.
Ce travail sur l'échelle est aussi en lien avec ce qu'il a né justement dans l'architecture, hein, dans ce rapport à l'espace induit par effectivement l'architecture moderne, hein, qui s'est caractérisée quand même par son gigantisme. Hein.
Oui,
on parle, il n'y a pas seulement les gratte-ciels, mais enfin, il y a aussi tous les immeubles dont la découverte du béton, hein, puisqu'il y a ça quand même, a permis l'élévation. Donc il y a cette expérimentation, et puis il y a aussi dans l'idée que effectivement la photographie, c'est un instrument de fiction, c'est quelque chose pour imaginer un autre récit, une autre façon de conduire le regard du spectateur, une autre façon de lui permettre de se raconter des histoires.
Oui, mais on part d'une réalité, en fait, d'une photographie, d'une réalité pour en créer une nouvelle. Et il nous raconte aussi beaucoup d'histoires, mais en même temps, il a un travail sur le corps qui est le corps sans le corps. Enfin, c'est un peu compliqué. Quand on sa série sur les vêtements, en fait, on parle du corps. Et on n'a pas le corps, on n'a pas cette photographie du corps, mais il parle du corps.
Oui, oui, il y a d'ailleurs une série de photos qui n'est pas exposée là, ici, dans Changement d'État, qu'il a effectuée en photographiant des personnes de haut, ce qui fait qu'on ne voit que le haut de leur crâne, donc leurs cheveux, et donc on lui disait, mais c'est pas la personne, ça, c'est pas la totalité de la personne, et il répondait par l'affirmative. Du reste, on écoute un extrait d'un entretien qu'il a donné, donc, le 2 mai 2011 sur France 24 à l'occasion d'un magazine culturel qui est animé par Louise Dupont à l'occasion d'une exposition qu'il faisait cette année-là à la Maison Européenne de la Photographie. On écoute Patrick Tossani.
Oui, j'aime regarder les choses de près, mais c'est, ça fait partie peut-être d'une procédure de travail, surtout pour jouer sur l'échelle, pour regarder le monde de très près, parce que l'objet grossit, mais le monde grossit également. C'est beaucoup en référence aussi à ce que je recherche et j'analyse sur le procédé photographique en lui-même.
Et vous dites questionner un peu le réel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire ?
C'est regarder le monde, c'est en regard de la photographie. La photographie copie le réel, représente le réel, mais c'est une espèce d'analogie, d'un mimétisme et d'une copie. Donc ça m'a toujours intrigué.
Plus près, par exemple, d'un objet, vous pensez qu'on voit plus sa réalité ?
On voit une part de réalité particulière qui nous met par le jeu des dimensions et de l'échelle, qui nous transporte dans un autre monde ou dans un regard plus poétique. Et donc c'est une façon de voir le réel et toujours en perspective où on écho avec cette étrangeté de la photographie.
Bien, alors donc on écoutait Patrick Tosiani. Je pense que dans l'extrait que nous venons d'écouter, il y a un élément important qui est cette notion de voir de près. Voir de près, je me suis dit que cette notion-là était intéressante pour justement considérer quelques-uns des exemplaires photographiques qui sont dans l'expo actuellement présentée et qui est encore visible jusqu'au 26 octobre. Trois images, la première s'intitule Rétroit, c'est une image de 1990, c'est une image de très grand format, et alors ce qu'on y voit, c'est quelque chose qui est... regarder de près ou regarder de loin ? Comment faut-il le considérer ? Parce qu'on a quand même l'impression de voir quelque chose comme un chou à la crème. Hein.
Oui, c'est une religieuse en fait, une religieuse en aluminium. Et on est déjà, dès le début de l'exposition, on tombe là-dessus. En fait, il y a un cadrage, il va jusqu'à l'extrême du cadrage pour rentrer au plus près du réel, je dirais. Et il se focalise sur pas mal de détails qu'on arrive à attraper au milieu de cette religieuse en aluminium.
Oui, en même temps, ça a un côté, je trouve, alors ça c'est étrange, parce que tout d'un coup, cet objet photographié renvoie à toute la photographie d'œuvres d'art qui constitue aussi l'histoire de la photographie, hein. Mmh. Des statues, des peintures, des sculptures.
Oui, hein. Oui.
Et du coup, on a aussi l'impression, quand on voit cet objet, qu'il relève quelque part de l'art informel, on pense à César et à ses expansions, oui. Et à ce désir justement de sortir, je dirais, tout ce qu'il a né de l'humain, du cadre de l'imitation dans lequel était engagé l'art, hein, puisque l'art imitait l'humain depuis le départ, l'imitait dans la statuaire, l'imitait dans la peinture, et tout d'un coup la photographie en était comme le dernier prolongement. Autre image intéressante à observer, c'est une image elle aussi de grand format dans l'exposition qui s'intitule « Pieds et maquettes ». Là, je pense que c'est pareil, c'est à la fois voir de près et voir de loin. On est dans le proche et le lointain, et on balance entre ces deux extrêmes avec Patrick Tosiani.
Oui, puis on est vraiment dans la frontalité des images. On est vraiment... on est pris dans ces images.
Alors c'est une image, je le rappelle, pour laquelle on voit donc deux parties du corps humain. Hein, ce sont les deux mollets avec les pieds d'un personnage masculin. Et entre ces pieds se trouve donc la représentation d'un immeuble. Et voilà, d'un immeuble. Et sur le mur de cet immeuble, il y a encore une main, deux mains qui sont en train d'ouvrir, on dirait, pour faire découvrir la peau de quelque chose. On est dans un travail sur les peaux, on
sur
dirait.
Les peaux,
hein.
Oui,
la peau de l'être humain, la peau de l'immeuble, qu'est-ce qu'il a né de ce rapport de peau, hein, de tactilité entre l'humain et puis donc son environnement.
Hein. Avec l'échange d'échelle aussi.
L'inversion.
L'inversion
l'inversion, puisque on a l'impression que c'est l'immeuble qui est devenu lilliputien, tandis que l'humain est atteint de gigantisme, c'est une inversion de l'environnement usuel de l'homme.
Oui.
Hein. On a même, je dirais, une remise en cause de certains principes architecturaux défendus par des grands maîtres, comme Le Corbusier. Hein. Le Corbusier avait imaginé ce fameux modulor réalisé à partir du nombre d'or. et qui était la mesure même à partir de laquelle il constituait les immeubles. Donc là, il y a tout un basculement, peut-être pour aller du côté de quelque chose qui est un peu plus poétique aussi.
Oui, très poétique.
Hein, très poétique, très dans le ressenti. La troisième image, alors je pense que celle-ci va aller encore plus du côté du poétique, puisque c'est une image intitulée Masque numéro 2. Elle est réalisée à partir de quel objet ?
Alors, c'est réalisé à partir de pantalons.
D'une forme qui est celle d'un vêtement ?
D'un vêtement, oui. On a l'impression d'avoir un tunnel et en fait... Grâce à cette façon de cette prise de vue, il a représenté un visage humain, un masque d'un visage humain.
Oui, qui pourrait être, qui peut rappeler aussi quelque chose de très ancien, hein, comme
rappeler
on pourrait
un masque primitif. Hein,
voilà, qui peut rappeler un masque primitif, tout à fait. Et en même temps, ce qui est quand même assez curieux avec cette image, c'est que tout d'un coup, c'est un pantalon dont il a gonflé l'intérieur de manière à ce que les deux jambes puissent déterminer les deux yeux de cet étrange masque. Hein. Et du coup, le tissu de ce pantalon devient comme quelque chose d'organique.
Oui, c'est comme une double présence du corps, c'est-à-dire qu'on a le pantalon, on imagine le corps de l'homme ou de la personne qui va mettre son pantalon, et en même temps, on a ce visage qui apparaît.
Oui, et puis il y a aussi alors par là toute une interrogation sur ce qu'il en est de la vision binoculaire, hein, de cette double vision dont il semble faire rebondir la signification, hein, parce qu'il faut dédoubler complètement sa vision de la chose. Hein. On est parti. Excusez-moi, de l'idée du masque, d'un masque un peu ancien, puis maintenant on en est dans les rapports à la chair, dans cette idée qu'on a ici le contenant qui évoque le contenu, hein, c'est-à-dire le pantalon qui évoque donc le corps qui se trouve à l'intérieur. C'est clair que là, on a les signes conventionnels du visible qui sont complètement malmenés.
Complètement modifiés.
Hein. Et puis je l'aime bien celle-ci, parce que je trouve que par rapport à la précédente, toute la série sur les relations entre l'humain et les immeubles, l'humain et l'architecture, eh bien cette série-là renvoie un peu à la première image dont nous parlions, parce qu'elle a un côté un petit peu informel aussi, et qu'elle révèle bien toute l'aversion pour le formalisme dont aussi Tosani est le grand défenseur. Hein. Les inversions d'échelle, tout ça c'est quand même une déconstruction du système architectural et du système de nos représentations et de notre, notre place dans cet univers.
Notre vision du monde aussi, qui est calquée aussi sur à l'échelle humaine, la représentation de l'homme. Et là, notre vision du monde, elle est complètement déformée aussi.
Oui.
Travail.
Et qu'est-ce qu'il reste de l'humain ?
Qu'est-ce qui va rester de l'humain, voilà.
Oui, qu'est-ce qui va rester de l'humain dans ces avancées technologiques qui visent, c'est vrai, à robotiser ou à donner une vision robotisée, numérisée, fragmentée, fractionnée, parcellisée, éparpillée de l'humain. Et ce qui est le solide, c'est ce qui l'étouffe. Hein, c'est tout cet emprisonnement constitué par les immeubles, par l'architecture.
Voilà.
Hein oui, un dernier mot sur le lien entre Tosani, la photographie plasticienne et Shannon Guérico. La photographie plasticienne pour Shannon, c'est pas une interrogation sur cet aspect-là, c'est une interrogation sur quelque chose d'autre dans l'humain.
C'est une interrogation sur... sur quelque chose d'autre. Il y a aussi le... Du côté du travail de Shannon, c'est sur sa filiation.
Oui.
Je pense que c'est différent du travail
c'est
de
Tosani. C'est sur l'invisible, c'est
voilà.
Ça. Hein.
Mais je pense qu'il y avait un lien, par contre, avec le travail de Sabine Meyer que j'avais exposé à la galerie et le travail de Tosani par rapport à ces mises en abîme aussi qu'on retrouve dans l'exposition, surtout sur son dernier, sur la salle qui est en haut, qui est en hauteur. Là.
Oui. Sabine Meyer, vous pouvez nous rappeler quel était le propos de cette exposition?
Alors Sabine Meyer, c'était l'exposition Les Sept Métamorphoses, où elle représentait un personnage qui était dans un décor très théâtral et où elle reprenait des morceaux d'architecture aussi, de son atelier en fait, qu'elle reproduisait avec des mises en abîme à chaque fois. Et je trouve que son travail fait un peu famille avec celui de Tozani, uniquement de, pour ce procédé-là, pour cette, pas du tout pour la représentation des corps ou des objets qu'a représenté Tozani.
Oui, donc...
C'est une façon de montrer une autre réalité qui n'est pas vraiment une réalité. Voilà.
Eh bien, ça sera le mot de la fin. Notre spéciale photo nous aura amené dans d'autres réalités. C'est la fin de Visu, émission proposée par Lisotte, aujourd'hui accompagnée par Annie Gabrielli, à l'occasion donc de l'exposition de Shannon Guérico, visible donc route de Nîmes dans sa galerie jusqu'au 15 novembre. Au revoir à toutes et à tous, à la technique Manu. Merci.